7h30.
6-10, le samedi. Karine Vasarino.
Tendez l'oreille, je vous propose un voyage sonore. On ne le sait pas forcément, mais la Suisse excelle dans ce domaine. Elle est même pionnière. Un ouvrage raconte cette histoire mondiale suisse du son. Mais avant de retrouver son auteur, je vous invite à découvrir la collection d'un passionné. C'est à Martigny, au musée du son de la Fondation Guéjoris. Pierre-André Perrin m'accueille pour la visite et il m'explique tout d'abord qui est André Guéjoris, un passionné et collectionneur né en 1929.
Ce monsieur, eh bien, il est né dans la radio et Radio Lausanne. En 1948, il était le plus jeune speaker de Radio Lausanne. On le voit en photo comme un beau jeune homme. Il avait 19 ans. C'est à cet âge-là qu'il a commencé la radio.
Et à partir de là, il s'est mis à collectionner toutes sortes d'appareils. C'est une des plus grandes collections en Suisse, on peut dire ça ?
En termes de qualité, oui, tout à fait. C'est la plus grande. Il faut revenir à la jeunesse de sa collection. Comme il était speaker à la radio, qui travaille dans une émission qui s'appelait « L'auditeur propose », eh bien, il a eu ce virus de posséder ses enregistrements. Alors, il a fait tous les marchés aux puces. Et plus il en avait, plus il était heureux. Et tout ce qu'il disait à la radio au niveau critique musical, il le mettait en même temps dans ses sources. Il a refait les pochettes de ses vieux disques des 78 tours. Et quelqu'un lui a dit « Mais il te manque quelque chose. » Et lui, il s'est interrogé. Mais qu'est-ce qui manque ? Déjà qu'il collait les photos, qu'il refaisait les pochettes, les autographes. Et il est parti dans les autographes. Voilà.
Et là, donc, en termes d'autographes, on a des grands noms
On en a plein. Je citais juste un, c'est Fernandel, qui avait écrit Guéjoris, G-A-I, au lieu de mettre G-U-E-X. Et puis Guéjoris avait dit « Non, mais c'est pas mon nom ». Puis Fernandel avait dit « C'est comme ça qu'on le dit à Marseille ».
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains.
Quand les visiteurs viennent ici dans cette fondation, dans ce lieu incroyable, qu'est-ce que vous leur montrez en premier ?
J'aime bien leur montrer le début de l'histoire du son. Vous avez ici une belle vitrine. Et puis comme on parle du son, de l'industrie du son en Suisse, on va découvrir qu'il y a l'écophone qui est ici, qui est un appareil de 1898. Et on va se rendre compte qu'en fait, à Sainte-Croix, qui est connu plus pour les boîtes à musique et tout le reste, eh bien, il faisait déjà, au début de l'industrie, non pas d'un disque plat, mais d'un cylindre. Voilà, j'enclenche, vous voyez, j'enclenche un ressort, simplement, que j'ai remonté. Et puis le cylindre qui commence à tourner, et on va écouter.
Puis là, c'est un son, on reconnaît donc un foxtrot américain. Comment on arrive à le faire encore marcher, cet appareil, qui a plus de 100, quasiment 120 ans? Comment ça se fait qu'il fonctionne toujours? C'est difficile à entretenir? C'est facile? Il y a une méthode?
Non, c'est facile. C'est de la mécanique. Qui dit mécanique dit de la graisse, de l'huile, de l'entretien, bien sûr. La délicatesse, parce que ce sont des appareils qui ont déjà un bon vécu. Et puis ça peut tenir encore 100 ans, 200 ans, on ne sait pas.
Et là, donc, dans cet espace, à droite et à gauche, sont exposés des appareils, tous vraiment incroyables. Si vous deviez choisir un appareil emblématique de la Suisse, là, ça serait lequel ?
Eh bien, c'est la fameuse tulipe de l'Art Nouveau. Vous êtes tombé droit dessus. Le Frinis des frères Jacquard de Sainte-Croix.
C'est vrai qu'on dirait une fleur.
Oui, c'était le pavillon à cette forme florale. Il y a, vous voyez, c'est le dessin des pétales, on le voit bien. Le rouge avec le jaune, les pétales jaunes dessus, ça va bien. Mais surtout, cet appareil a une belle histoire parce que c'est un appareil qui avait vraiment été conçu pour un monsieur important en France à un moment donné. Et malheureusement, ce monsieur, on est dans le début des périodes de la voiture. Il faisait des courses de voiture et il va malheureusement, il perd la vie. Cet appareil va rester longtemps à Sainte-Croix avant de trouver un acquéreur qui va sillonner un peu le monde avec cet appareil avant de revenir en Suisse, chez nous, aujourd'hui.
Il est né en 1911.
Il fonctionne encore, oui, tout à fait. C'est un appareil à disque avec, justement, dessus, il a une tête de lecture qu'on appelle la plaque vibrante, où l'aiguille vibre dans un sillon qui est creusé dans le disque et retransmet par la force de compression de l'air le son à travers un pavillon.
Alors ce Frinis 1908, Donc là, j'imagine qu'on ne peut pas forcément le faire fonctionner, ce Frinis. Celui-là, il est comme ça sur une vitrine. Il pourrait fonctionner.
Mais je n'ai pas les manivelles.
Voilà, vous n'avez pas les manivelles, vous pouvez le dire. Mais est-ce que c'est possible de faire fonctionner un autre gramophone? Vous avez... Ah, celui-ci, qui est un peu plus récent, mais qui, lui aussi, il a une très très jolie, on dirait une fleur aussi.
Oui.
Donc là, vous avez trouvé la manivelle, vous êtes en train d'essayer de la remettre.
Oui. C'est une technique. Je vais le remonter. Alors, quand on remonte un gramophone avec un ressort, on doit toujours libérer le plateau. Sinon, le ressort force trop. Puis vous voyez, bon là, je tourne pas mal. Mais au bout d'un moment, je vais lâcher un peu. Voilà, pour pas trop forcer. Faut pas aller à fond. Si vous faites à fond, c'est les ressorts qui pètent. Ils sont trop vieux. Là, je vais mettre un disque. Je vais le poser dessus.
Donc c'est une petite aiguille.
C'est une petite aiguille. Là. Voilà, c'est bon, je vais partir au début.
On écoute le son qui sort comme ça de ce gramophone, ça nous fait complètement voyager. C'est incroyable, on se croirait dans... On est projeté dans une autre époque.
Oui, tout à fait. Il faut penser que si on remonte dans le temps, puis que si on avait été présent, lorsque quelqu'un aurait dit « Écoutez, au lieu d'aller au concert ce soir, c'est moi qui ai fait le concert dans ma maison », tout le monde aurait rigolé. Mais lorsque le gramophone est capable de faire ça, vous imaginez ce qui va se passer, c'est une révolution. C'est comme aujourd'hui avec nos systèmes Internet et compagnie. On doit toujours aller voir un concert, les musiciens le savent. Mais on peut aussi avoir notre concert individuel à la maison ou entre amis. Bon, il fallait avoir aussi les moyens de l'acheter et surtout les disques qui coûtaient assez cher à l'époque. Alors vous avez ici, dans les appareils les plus petits, bien sûr, vous avez les appareils suisses, le maestrophone de la maison Paillard, bien entendu. Mais vous avez le Mickeyphone qui est ici, vous voyez, c'est en forme de boîte de camembert, c'est comme ça qu'on les appelait. Tout va dans la boîte, il a été considéré comme le plus petit du monde.
Comment ça fonctionne? On la met où la musique là-dedans? C'est vraiment, on dirait vraiment une boîte de fromage?
Oui, ça ressemble à une boîte de fromage, c'est le cas de le dire. Alors, le disque, il vient se fixer dessus. Alors, au départ, vous voyez, tout rentre dans la boîte, on sort tout ce qu'il faut, et vous avez une petite vis pour fixer le disque dessus, et puis une petite, vous voyez, on voit ici la petite tête de lecture, donc la petite plaque vibrante, avec l'aiguille qui vient se poser sur le disque, et tout ça est à ressort.
Surnommée la boîte à camembert, nous sommes en 1926, le Mickeyphone, ça a eu du succès?
Je pense que ça a eu beaucoup de succès. C'était les frères Vadatz, je ne sais pas si je prononce juste, hein, de Genève, qui ont travaillé aussi avec la firme Paillard. C'est vraiment des gens qui sûrement cherchaient à avoir une originalité.
Et ces petites boîtes à camembert sonores, c'est possible de les faire tourner, d'entendre le son?
Alors le fameux Mickeyphone, il faut un bon horloger. J'ai un ami horloger. Il faut qu'il mette un peu le nez dedans parce qu'il y a sûrement la graisse qui est coincée, il y a tout qui est coincé. Je ne l'ai jamais fait fonctionner, donc il faut d'abord une belle révision et peut-être qu'on aura un son magnifique, je ne sais pas.
Et Et nous étions dans ce musée de la Fondation Guy Joris en compagnie de Pierre-André Perrin qui s'est occupé de la visite. Bonjour Joseph Taradellas.
Oui, bonjour.
On vient de vivre cette aventure avec vous. C'est une des adresses que vous recommandez pour voir le son suisse.
Absolument, c'est un endroit tout à fait charmant qui a été réalisé avec passion par Monsieur Guy Joris. Et comme il a été fait avec passion, eh bien, cette passion, on la ressent quand on visite le musée.
Et vous-même, Joseph Taradellas, vous êtes un passionné. Vous possédez une petite collection personnelle d'appareils et de disques de l'époque. Et vous avez écrit « L'aventure mondiale du son suisse » aux éditions Le Savoir Suisse. Alors quand on pense à la Suisse, on pense aux pays de l'horlogerie, chocolat, les banques. Mais vous, vous racontez une autre excellence helvétique, c'est celle du son. La Suisse, référence dans ce domaine encore aujourd'hui ?
Oui, absolument. Même aujourd'hui. Alors, on pense beaucoup aux appareils qu'il y avait dans les années 50, on en reparlera. Mais actuellement, en Suisse, il existe 40 petites entreprises, ateliers, etc., qui fabriquent du matériel de son, tout le type, depuis les tourne-disques, les enceintes, les amplis, tout ce que vous voulez, et qui sont réputés mondialement.
Mais pourquoi cette histoire semble méconnue du grand public ?
J'en connais pas vraiment la raison, mais je pourrais imaginer qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la fin des années 70, lorsque ce qui est devenu à la mode, c'est l'écoute en mobilité. L'arrivée de la mini-cassette, une grande partie du public s'est mis à écouter la musique. J'appelle ça en mobilité, pas forcément, mais à travers ce genre de choses. Et maintenant, c'est le streaming. Et donc, c'est un problème social. On a un peu perdu l'habitude d'écouter la musique entre amis dans un salon la musique, elle s'écoute dans le bus de 17h30 quand on rentre du boulot avec des écouteurs. Alors, bien sûr, il reste une grande partie de public, surtout à l'étranger, surtout en Asie, qui continue à avoir une écoute, je dirais, sociale, une écoute passionnée de la musique. Ça s'est un peu perdu dans nos pays occidentaux. C'est pour ça que ceux qui continuent à fabriquer ce genre d'appareils sont moins connus, mais ils sont toujours vivants.
Moins connus, toujours vivants, et c'est de la très 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 bonne qualité. Hein. C'est d'ailleurs des appareils qui coûtent très très cher, on peut le dire, comme une très très belle montre.
Oui, alors c'est des appareils qui coûtent très cher pour certains, mais d'autres qui sont à des prix, je dirais pas bon marché, mais raisonnables et qui donnent un son extraordinaire. Un son sans doute bien meilleur que son équivalent d'un autre pays.
Avec toujours cette idée que c'est aussi beau qu'une montre suisse en fait, c'est une œuvre d'art. C'est comme le gramophone qu'on entendait dans ce reportage, le Phrynis, qui est une véritable œuvre d'art de la belle époque.
Ben, écoutez, c'est une installation de son, et en particulier les enceintes, hein, c'est un objet qui est comme un violon. Il fait de la musique. Un violon, c'est une œuvre d'art. Moi, je considère que toute l'industrie du son, c'est une industrie artisanale. Artisanale, non pas pour le nombre de personnes, mais parce que ça fait des œuvres d'art. Quand vous êtes chez vous et que grâce à un appareil, vous pouvez écouter la 9e symphonie de Beethoven ou un disque de jazz d'une façon qui vous émeut, c'est grâce à cet objet qui a transmis le son comme le transmet un violon. Au fond, une très bonne chaîne hi-fi, eh ben c'est l'équivalent en électronique de ce qu'est un Stradivarius pour les instruments à cordes.
Et qu'on trouve donc en Suisse. Alors on va revenir sur cette histoire du son et de la Suisse, avec déjà au XIXe siècle, la Suisse qui est le berceau des musiques mécaniques. Ça, vous le rappelez dans votre livre, évidemment, on le sait. Et la Suisse restera un pays précurseur en matière du son.
Oui, alors pourquoi ? Parce que les fabricants, au départ, ceux qui faisaient les boîtes à musique et ensuite les autres qui ont suivi, ils ont toujours été à l'écoute de ce qui se passe. Alors évidemment, les grandes avancées sont presque toujours venues des États-Unis ou d'Allemagne, mais surtout des États-Unis. Par exemple, lorsque est paru le micro-sillon en 48, bien, tout de suite, des boîtes comme Torrance ou Lenco, elles étaient au courant, elles ont tout de suite essayé d'imiter. Et puis elles ont non seulement imité, mais elles ont fait mieux. Même chose avec Studer et Revox pour les magnétophones, parce que c'était des gens curieux et surtout, je dirais, qui étaient prêts à prendre des risques, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas.
Quand même, un peu aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y a 40 entreprises qui continuent à faire du son.
Oui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord, il faut rendre hommage à ces gens, parce que, par exemple, depuis 2020, il y a 3 entreprises qui se sont créées. Elles se sont créées pourquoi ? Parce que c'est des passionnés. Et qu'ils arrivent, malgré tout, à placer leurs appareils, à proposer des choses de très grande qualité. Mais c'est vrai que là, il y a une prise de risque.
Alors, quelques dates. 1911, la capitale du son suisse se situe à Sainte-Croix, Torrance et Payard. C'est l'essor du gramophone après la guerre. On en parlait dans le reportage. Et puis, l'âge d'or du son suisse, c'est entre 1950 et 1964, grâce au rock and roll et aux disques, aux platines. Et vous racontez évidemment la naissance d'un appareil mythique, le Nagra. Là, c'est un changement dans l'histoire de l'enregistrement sonore, le Nagra. D'ailleurs, j'en ai un avec moi. C'est grâce au Nagra que j'ai enregistré ce reportage dans le musée du son à Martigny.
S'il y a une personne qui a été visionnaire dans l'industrie suisse, ça a été Stéphane Koudelski. Donc, un visionnaire, il était à l'Épule à l'époque, et il a eu l'idée de utiliser les bandes magnétiques pour faire marcher des machines de réglage automatique. Et puis ça n'a intéressé personne. Aucun industriel n'a été pris là-dedans. Puis il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça pour enregistrer le son. Et ça a été le début.
Alors, à l'heure du numérique, du streaming, de l'écoute nomade, comme vous venez de le dire, quel avenir voyez-vous pour l'industrie suisse du son ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'industrie suisse du son s'est parfaitement adaptée au numérique. Même plus que parfaitement adaptée, elle a été leader un peu, elle l'est encore. Quand on pense aux logiciels qui ont été créés par Weiss, ou quand on pense à les différentes méthodes qui ont été mises au point par différentes boîtes pour le CD. Donc, elle est toujours, actuellement, bien adaptée au numérique. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que le public, lui, a beaucoup changé. Et on l'a dit tout à l'heure. L'industrie actuelle du son suisse, elle fonctionne en grande partie grâce à l'exportation. Et donc, elle est, de mon point de vue, très sujette à ce qui se passe dans le monde. Et lorsqu'il y a une crise économique, comme par exemple actuellement en Chine, elle souffre. 40 entreprises, ça me paraît très important, 40 entreprises qui chacune fait son petit boulot de son côté. Et moi, je le dis dans mon livre, j'en ai parlé aux entrepreneurs, s'ils veulent survivre, il faudra qu'à un moment ou un autre, ils créent une sorte de syndicat du son suisse, de façon à se défendre, de façon à avoir une dynamique beaucoup plus forte. Et là, je pense qu'ils auraient un avenir. Mais s'ils ne font pas ça, ben, ça sera difficile, d'autant que, visiblement, la situation dans le monde ne s'améliore pas.
Un syndicat du son suisse pour sauver l'industrie suisse du son. Si vous deviez résumer le son suisse, comment ça sonne, le son suisse ?
Le son suisse, je peux d'abord le résumer du côté négatif. Il n'est jamais spectaculaire. Il n'essaye pas, et comme beaucoup d'installations ou de fidélité, il n'essaye pas d'en mettre plein les yeux ou plein les oreilles. Le son suisse, toujours, quel que soit le niveau de la chaîne, a toujours, je crois, comme caractéristique d'être au plus près de la vérité de l'instrument ou de la voix.
Être près de la vérité, de la réalité finalement. C'est un son réel et réaliste.
En tout cas, au plus près possible de ce qu'est la vérité. C'est le son le plus difficile à reproduire dans sa vérité, c'est la voix. Moi, j'ai testé la plupart des enceintes de mon livre. Je mettais toujours la voix. Parce que la voix, pourquoi ? On n'est pas violoniste, on ne sait pas exactement comment c'est. On n'est pas trompettiste. Par contre, on a sa propre voix où on entend la voix des autres. Et c'est ce grain particulier de la voix qui est très difficile à produire et que je trouve, moi, personnellement, toujours reproduit de façon très honnête, très naturelle par les appareils que j'ai écoutés.
Merci Joseph Taradellas. Vous avez écrit L'aventure mondiale du son suisse et c'est aux éditions Le Savoir Suisse.
Mais merci.